Voyons, voyons, mais tu sais lire, hein?
Oui.
Et puis on lit.
La, ma, ma, a, u, ni. C'est un petit garçon qui n'était pas sage.
Pascal Paradou.
Comment apprendre à lire, à quel âge, à quel rythme, qu'en est-il du niveau, le fameux niveau qui semble baisser inexorablement depuis des années, depuis La gloire de mon père, le roman de Marcel Pagnol qui a bercé des générations et des générations du XXe siècle et dont on vient d'entendre un extrait. Bonjour Jean-Pierre Terraille.
Bonjour.
Sociologue, professeur honoraire des universités, cofondateur du groupe de recherche sur la démocratisation scolaire. Je suis sûr que vous avez des réponses à toutes ces questions, mais la première qui me brûle les lèvres, objectivement, est-ce que le niveau baisse ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est une ritournelle depuis des décennies.
Ah, c'est une bonne question, mais malheureusement, c'est une réalité abondamment alimentée par les données statistiques de l'ADEP, le service d'études du ministère, qui est sans doute le meilleur service d'études statistiques en France. Et cela, cette baisse, elle s'opère depuis la fin des années 80. Et elle est masquée par, la tendance inverse à l'augmentation des diplômes, au point que les jeunes vont de plus en plus loin, mais à chaque niveau, ils ont moins appris qu'il n'apprenait il y a 30 ans, 40 ans.
Alors, dans votre livre, vous donnez un chiffre dès les premières lignes, c'est qu'à la fin du CP, donc du cours élémentaire, du cours primaire, près d'un élève sur deux ne parvient pas à lire 50 mots en une minute, ce qui est l'objectif ministériel. Donc, ça baisse. On y reviendra, mais quand même, cela a progressé depuis le 19e siècle, ce que vous nous rappelez dans cet ouvrage « Petite histoire de la lecture et de son enseignement ». Pourquoi faire l'histoire de la lecture pour comprendre la situation actuelle?
Je me suis beaucoup posé la question des aventures de la pédagogie de la lecture au long du XXe siècle. J'avais été très frappé, comme je suis sociologue, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à l'anthropologie, à l'histoire, à la linguistique, etc. J'avais été très frappé par ce qui s'est passé dans la Grèce antique, s'agissant d'une démocratisation absolument considérable de l'accès à la lecture et à l'écriture, au point que les citoyens riches dans la Grèce du 5e et 6e siècle avaient recours à des esclaves pour faire répéter leurs enfants qui apprenaient à lire.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en Grèce pour qu'il y ait une démocratisation de cette lecture? C'est l'invention finalement de l'alphabet?
Oui. Dans mon dernier livre, j'ai voulu associer la lecture et l'écriture, en partant de ce constat évident que ce qu'on appelle lecture, c'est le déchiffrage de quelque chose qui a d'abord été transcrit, qui a été écrit, le déchiffrage d'énoncés langagiers qui ont été transcrits, et s'ils ont été transcrits, c'est à l'aide d'un certain code qui définit un système d'écriture. Et tout à fait logiquement, apprendre à lire, c'est utiliser les leviers de ce code pour déchiffrer ces énoncés langagiers. Et pour utiliser ce levier, bien évidemment, il faut connaître le code, il faut l'apprendre. Ce code varie selon les systèmes d'écriture. Il y a donc une variété d'apprentissage et de modes de lecture aussi importante qu'il n'y a que l'humanité a inventé de système d'écriture. On n'apprend évidemment pas à lire de la même façon à Sumer, en Chine.
Mais on est passé surtout de Sumer et de Chine aux idéogrammes. Enfin, c'était des idéogrammes. Mmh. Et aujourd'hui, ce sont des phrases avec un alphabet. C'est-à-dire que vous vous donnez un chiffre qui est assez saisissant. Un lettré en Chine devait mémoriser 2000 idéogrammes avant ses 6 ou 7 ans. Un petit français aujourd'hui, tout aussi lettré ou un peu moins, qu'importe, a juste 26 lettres à reconnaître et à combiner. C'est ça l'argument, le levier pour la démocratisation de la lecture, non ?
Absolument. L'histoire des systèmes d'écriture est une histoire complexe, mais dont la tendance générale est à la simplification du code de transcription. Donc, on a connu les écritures au départ. Toutes les écritures sont des écritures d'idées, des écritures de mots. Et puis, progressivement, on se met à utiliser les signes graphiques pour transcrire des sons jusqu'à arriver à, je rappelle que les débuts de l'écriture, c'est en gros le début du troisième millénaire avant notre ère, à Sumer et puis peu après en Égypte. 1500 ans après, apparaît le premier alphabet, qui est l'alphabet consonantique, qui va servir à transcrire les langues sémitiques, donc l'hébreu, l'arabe,
l'araméen,
bien. Et ce sont les Grecs qui, reprenant l'alphabet consonantique, l'ont adapté à leur langue. Or, une des grandes caractéristiques du grec ancien, c'est l'usage du A privatif, c'est-à-dire qui s'est conservé en français quand on oppose moral à amoral. Donc, amoral, c'est le contraire de moral. Ce A, ce préfixe A, on l'avait, donc c'était une des caractéristiques du grec. C'est une voyelle. Pour les scribes grecs, pour les lettrés de la Grèce ancienne, il était évidemment tout à fait précieux de chercher un alphabet qui permette de transcrire tous les sons de la langue, y compris les voyelles et pas seulement les consonnes.
Et c'est donc l'invention de cet enseignement de la langue, ou plutôt de la lecture, avec des consonnes, des voyelles et des syllabes. Voilà pour le contexte historique que vous nous rappelez dans votre petite histoire de la lecture et de l'enseignement. Avant d'arriver au sujet qui fâche, quelle méthode aujourd'hui pour apprendre à lire, ce que nous évoquerons dans quelques minutes, Jean-Pierre Terrail, après notre appel hebdomadaire ailleurs, où il est question de livres comme par hasard. Ailleurs à Abidjan avec Ange-Félix Ncapri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire général du SILLA, le Salon international du livre. Alors c'est bien sûr un rendez-vous pour la capitale ivoirienne, mais vous voulez aussi en faire un événement pour l'ensemble de l'Afrique francophone.
C'est exactement cette ambition que la Côte d'Ivoire porte et le SILA donc s'attelle chaque année, essaie de monter en puissance pour justement justifier cette grosse ambition et relever tous les défis, tous les challenges inhérents à cette ambition.
Quels sont les atouts que vous avez ?
Les atouts sont d'abord ce que représente Abidjan. Abidjan en Afrique de l'Ouest, Abidjan en quelque sorte la capitale de l'Afrique francophone noire. On a aussi l'avantage à Abidjan de disposer de certaines infrastructures qui nous permettent justement d'accueillir de tels événements. Et puis, Abidjan aussi parce que se met en place depuis quelques années une société de consommation très proche de la lecture, du livre et de la lecture.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a des populations, tout âge confondu, qui de plus en plus manifeste un intérêt à la tenue de ce Salon international du livre d'Abidjan.
Et puis c'est un marché, c'est le cinquième marché du livre francophone après des pays européens et avant la Suisse.
Tout à fait. C'est un marché considérable, c'est un marché important, du livre et de la lecture.
Alors pour cette 15e édition, vous avez choisi le thème de livres racines. Cela veut dire quoi? Ce sont les livres fondamentaux?
Ben, livre racine ici, c'est justement proposer le livre comme ce support, tant papier, digital, audio, numérique, comme justement cet élément qui doit nous permettre justement de nous former, de nous éduquer, de débattre, de bâtir, de construire, d'envisager l'avenir avec toujours cette positivité qui doit animer les hommes. Livre racine aussi, c'est pour rappeler, un tant soit peu, aux populations ivoiriennes, notamment à nos autorités ivoiriennes, du fait que l'année électorale que nous traversons devrait être une année que nous devons vivre dans la paix, dans la fraternité, dans la démocratie, dans le fair play.
Alors Marguerite Aboué, l'autrice de bande dessinée et votre invitée d'honneur cette année, Aya de Yopougon est-il un livre racine?
Ben oui, dans Aya de Yopougon, on doit pouvoir trouver des éléments, des motivations, des justificatifs qui nous ramènent à livre racine. Aya de Yopougon est cette collection qui s'élève justement ses 20 ans cette année. Donc créée en 2001, dans une période assez difficile de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc Aya de Yopougon est ce symbole de la résilience. Aya de Yopougon est ce symbole de la jeune fille qui, quand bien même évoluant dans un quartier dit populaire, se donne les moyens, les ressources, avec bien entendu l'encadrement et le regard de sa famille, qui est une famille assez modeste, et qui arrive quand même à s'en sortir.
Marguerite Aboué, mais aussi Christiane Taubira qui évoquera Frantz Fanon. Vous avez donc des invités prestigieux et vous visez des publics très larges. Merci beaucoup Ange-Félix Nkapri. Le SILA, c'est du 6 au 10 mai au Parc des Expositions d'Abidjan, mais aussi des événements hors les murs à l'Institut français, à l'Université au Fouet de Boigny ou à la médiathèque de Trècheville. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Puisqu'il faut tout ramener à l'amour, se méfier de nos colères et de là où elles nous emmènent. S'accrocher à l'instinct de vie, juguler l'instinct de mort. Garder la lueur, garder la lumière, la fixer en ligne de mire. Chaque jour sa prose et sa poésie. Vivre dans le réel que l'imaginaire arrose. Cueillir chaque aube à l'orée de la rosée. Langage du cœur cherche sa pierre de rosette pour se dérober à la colère de Némésis. Protéger l'enfant intérieur, ses élans idéalistes. Forger oasis où le sublime nous résiste. Et s'il le faut, revenir sur ses pas, retourner à bon port, faire demi-tour pour amener tout à l'amour. 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 Ramener tout à l'amour. Tout à l'amour. Tout à l'amour. Ramener tout à l'amour. Tout à l'amour. Tout à l'amour. Tout à l'amour. Ramener tout à l'amour. Tout à l'amour. Tout à l'amour. Ramener tout à l'amour. Rire beaucoup, rire souvent, rire sous la verse et sous le vent. Trouver dans la joie tout ce que la tristesse nous vole. Aller venir voler pour remplir nos vides par nos envolées. Chérir le précis et le vague, l'insignifiant et le vaste. Souffler sur les braises de ce feu qui brûle mais que le temps dévaste. Remercier le vœu que chaque matin exauce et semer. Semer tout ce qui nous reste de graines d'abondance. Dire l'allégresse, rêver le beau. À défaut de toujours faire le bien. Et dans le labyrinthe infernal, garder le cap ou rebrousser chemin pour amener tout à l'amour. Tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'amour, ramener tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'amour.
Ghislain N, coup de cœur des MFP, les médias francophones publics, pour cet artiste afro-antillais né en Alsace, musicien et écrivain. Tout à l'amour, son nouveau titre, est aussi sur la playlist de RFI. Tout à l'amour de la lecture, avec aujourd'hui notre invité Jean-Pierre Terraille et ce livre, Petite histoire de la lecture et de son enseignement, avec un débat qui a émergé, enfin depuis le début du XXe siècle, mais qui a explosé dans les années 60. À peu près sur les méthodes d'enseignement. Alors, si on veut résumer la situation, Jean-Pierre Terraille, il y a deux méthodes pour apprendre à lire. Vous allez nous expliquer lesquelles. La globale et la syllabique. Donc la syllabique, c'est BEA, bas.
Oui, la syllabique, le principe de la syllabique, c'est d'apprendre le code qui a servi à transcrire les énoncés langagiers et grâce à ce code, déchiffrer les textes à lire.
Donc ça, c'est la méthode classique historique. C'est pour ça que vous faites ce détour par l'histoire de la lecture.
Voilà,
justement.
Je me suis posé la question de savoir précisément comment on apprenait à lire dans les pays et aux époques où a été utilisé le système d'écriture alphabétique.
Et donc c'est la syllabique.
Et de fait, c'est la syllabique. C'était la syllabique dans la Grèce antique, c'est-à-dire qu'à Rome, on commençait par apprendre le code et ensuite on lisait des textes.
Donc ça, c'est la première méthode. La seconde, c'est la globale. Alors, c'est quoi la globale ?
Voilà, mais attendez, avant d'arriver à la globale, juste un mot, puisque vous savez que l'alphabétisation des populations occidentales a démarré comme phénomène de masse avec la réforme protestante, que l'Église catholique a contre-attaqué face à l'essor des écoles protestantes en créant ses propres écoles. Et donc, pendant trois siècles, et c'est bien contre la mainmise de l'Église sur l'alphabétisation que les républicains modérés autour de Jules Ferry se sont élevés, je me suis posé la question, comment on apprenait à lire au long de ces siècles ? Le constat très frappant, c'est que la question de la compréhension de ce qu'on lisait, paradoxalement, apparaît, au moins jusqu'au XIXe siècle, comme une question relativement seconde. Au fond, quand on regarde ces processus d'apprentissage du lire-écrire, on pense, on est renvoyé à quelque chose de l'ordre de ce qu'on imagine, en tout cas comme étant l'école coranique que je connais mal, c'est-à-dire l'apprentissage d'un décodage qui sert à psalmodier, mais qui ne vise pas nécessairement à comprendre ce qu'on lit.
Donc on apprend par cœur ou on annonce ?
Non, oui, enfin on apprend à déchiffrer et à suivre un support qui permet ensuite d'exécuter dans les édifices religieux, les rituels religieux, de façon chorale, tout le monde déchiffre en même temps, etc. Bon. Ce qui est frappant, c'est que dans cet apprentissage, l'apprentissage du code lui-même, ce qui sert simplement à déchiffrer, qui ne met pas du tout l'accent sur la compréhension, prenait beaucoup de temps, et la compréhension venait seulement au terme de la question de la lecture. D'abord, c'était en latin, et les gens n'y comprenaient rien. Et c'est seulement au bout de X mois ou X années qu'on pouvait aborder des textes en français. Ça a duré très longtemps, cette séparation entre ce qu'on pourrait appeler l'alphabétisation d'un côté et ensuite la lecture qui, elle, vise la compréhension de ce qu'on déchiffre. Au point que, encore au XIXe siècle, le manuel imposé par Guizot, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction publique en 1833, était composé de deux ouvrages d'importance à peu près équivalents. Le premier ouvrage sur lequel on passait, je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps, était uniquement consacré à l'apprentissage technique du code. Et c'est seulement après tout ce temps passé qu'on abordait la question d'une lecture compréhensive.
Donc avec la méthode globale, ce qui change, c'est ça. C'est-à-dire que la priorité n'est pas tant de décoder, mais de comprendre ce que l'on lit.
Voilà, les initiateurs, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est le médecin Ovid de Crowley qui avait affaire à des enfants dits retardés ou attardés, ou bon, des enfants agités qui avaient sans doute du mal à concentrer leur attention, de Crowley s'est dit, avec ces enfants-là, on ne va pas pouvoir leur faire apprendre un code qui n'a pas de sens pendant des mois et des mois. Et il a eu l'idée, au lieu de faire déchiffrer la lettre et les syllabes, de faire reconnaître le profil graphique des mots. Ça, c'est le fondement de la méthode globale.
Et cette méthode globale s'est installée peu à peu, notamment en France, avec une date clé, c'est 85, quand les directives du ministère disent plutôt « lire, c'est comprendre », ce qui n'est pas complètement faux, mais vous dites aussi, Jean-Pierre Terrailles, que c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il y a eu une défaillance du système d'enseignement de la lecture.
Oui, c'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, les courants d'éducation nouvelle sont séduits par l'idée de Crowley et ne tardent pas à s'en emparer. Les éditeurs commencent à publier des manuels qui s'inspirent, au moins pour une part, de ces principes. C'est à partir des années 1970 que le ministère va prendre définitivement le parti, enfin jusqu'à aujourd'hui, le parti de ce type d'approche, de méthode globale, qui va tout de suite au sens. Et le mot d'ordre récurrent de toutes les instructions officielles qui scandent ces décennies de 1970 aux années 2000, c'est le mot d'ordre « lire, c'est comprendre ». Personnellement, je me suis très longtemps interrogé sur pourquoi ce mot d'ordre, qu'est-ce que ça voulait dire. Et en réalité, c'est quand on fait le détour historique que je propose dans ce livre qu'on comprend la portée et la signification. L'objectif, c'est d'éviter de faire l'impasse sur toute cette première séquence d'apprentissage du code sans compréhension, pour en arriver seulement, après tout un temps, à une véritable lecture.
Alors, le débat était particulièrement vif dans ces années-là, 70, 80, 2000, jusqu'en 2018, quand Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, décide qu'il faut en finir avec la méthode globale, au profit donc de la syllabique. Jean-Michel Blanquer, qui était au micro de Sylvie Coffi de RFI.
Je n'ai pas du tout créé une opposition caricaturale entre syllabique et globale. Je sais parfaitement que la méthode globale ne s'applique pas de manière pure et absolue dans notre système. Et je n'ai jamais prétendu ça. Par contre, que du fait d'erreurs pédagogiques en matière de lecture dans le passé, il y ait encore des traces dans nos méthodes aujourd'hui, ça existe. Et puis, des gens entretiennent à l'envi un certain nombre d'ambiguïtés. On dit par exemple, il faut comprendre qu'il faut une méthode mixte. Oui, j'y adhère si mixte, c'est le code et le sens.
De fait, Jean-Pierre Terrailles, aujourd'hui, c'est un mélange de ces deux méthodes qui est enseignée, à la fois la syllabique et la globale. En même temps, c'est difficile d'imposer aux milliers d'enseignants une seule méthode.
Oui, absolument. La période est marquée par la publication très récente de, je pense, la plus grande enquête sur cette question qui ait jamais été réalisée dans le monde entier, puisque en France, elle a touché plus de 9000 enseignants et dont les représentants, en gros, 150 000 élèves. Et cette enquête produit plusieurs résultats extrêmement significatifs. Premier résultat, quand on compare les performances des élèves ayant suivi les différents modes d'apprentissage, on constate que dans tous les cas de figure, ce sont les enseignants pratiquant la méthode syllabique stricte qui obtiennent les meilleurs résultats dans tous les milieux sociaux et tout particulièrement avec les enfants des milieux populaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont que l'école pour apprendre à lire, pour l'essentiel. Le deuxième résultat, c'est que la proportion des enseignants qui pratiquent aujourd'hui en France cette méthode est extrêmement minoritaire, puisqu'elle représente moins de 5% des enseignants. Autrement dit, depuis les années 1970 qu'on évoquait tout à l'heure, s'est cristallisée une culture professionnelle, une culture des gestes et de la conduite des apprentissages qui évolue beaucoup plus lentement que ce que montrent les enquêtes, puisqu'il y a une accumulation. Je viens de citer l'enquête Formalect, qui est la dernière en date et la plus importante, mais il y en avait eu bien d'autres auparavant qui conduisaient au même résultat. Et la transformation des pratiques est beaucoup plus lente.
Mais vous plaidez donc, Jean-Pierre Tirail, pour un retour à la méthode syllabique pure et dure.
C'est pas moi qui plaide, c'est les faits. Ce sont les faits. Et en tant que partisan de la démocratisation de l'école, je choisis la méthode qui s'avère la plus efficace, aussi bien en termes de déchiffrage qu'en termes de compréhension de ce qu'on lit, avec tous les élèves, y compris les enfants des classes populaires, c'est-à-dire la méthode syllabique.
Mais est-ce que cela permettrait, j'en reviens à ce fameux niveau, de remonter le niveau? Parce que dans ce livre, cette petite histoire de la lecture et de son enseignement, vous dites aussi que la méthode globale, comme il faut comprendre un sens global, etc., paupérise, mais ridiculise un peu, ou infantilise plutôt, c'est votre terme, les histoires qui sont racontées. C'est-à-dire qu'on n'accède pas à des textes de plus grande importance, on est à un niveau de parler et de lecture du quotidien.
Oui, ce qui se passe, c'est que l'usage de la méthode globale pure de l'identification visuelle des mots est une aberration pédagogique. Il faut dire les choses comme elles sont. Personne ne peut reconnaître les mots si on ne les décode pas au niveau de la lettre et de la syllabe. Par conséquent, cette méthode globale a développé ce qu'on appelle la lecture devinette à partir du moment où vous, en vous appuyant sur le contexte de l'histoire, sur l'image qui l'illustre, sur une des syllabes du mot que vous arrivez à déchiffrer, on vous demande de deviner le mot qui est à lire.
Et donc ça simplifie tout, un peu trop pour vous?
Ça simplifie rien du tout parce que les enfants ne se trompent. Je me souviens du fameux film documentaire de ce célèbre documentariste français dont le nom m'échappe maintenant, qui s'appelait Lire et écrire, je crois, et où on voyait un môme qui déchiffrait et qui lisait, au lieu de lire camarade, lisait copain, ou vice-versa, enfin peu importe. Donc on devine, mais lire, ce n'est pas deviner.
Je crois que le film, c'était Être et avoir.
Ah voilà, absolument.
Merci beaucoup Jean-Pierre Tirail. Petite histoire de la lecture et de son enseignement est publiée aux éditions Le Bord de l'eau, et on sait tout ou presque de la lecture depuis Sumer, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto, l'inégalable Laura Pinto à la réalisation, et bien sûr on se retrouve demain. D'ici là, les rendez-vous habituels: RFI.fr pour le site internet, l'application Pure Radio et la page Facebook de l'émission. Si vous nous ratez, c'est de votre faute.